Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Je suis née dans le 10e arrondissement de Paris le 30 avril 1971, écrivez-vous, rue Zilbermann, dans la direction de l'absent. Soit 26 ans après la fin de la guerre, la seule qui vaille, la deuxième. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était beaucoup 26 ans. Plus exactement, j'ai longtemps cru que j'étais née dans un autre espace-temps. Comme après un nouveau Big Bang, dans un nouvel univers, le monde fabuleux de l'après-guerre. Et j'étais, enfant élu, hors de portée du mal. Je reformule donc, je suis née le 30 avril de l'an de grâce 26, splendidement vivante, merveilleusement non contaminée. 26 ans, c'est peu ou c'est beaucoup ? Bonjour Ruth Zilbermann.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice, vous êtes d'ailleurs venue récemment à Mémoire Vive pour présenter votre film Les Héritiers, un portrait de quatre écrivains hantés par la Shoah. Et vous avez signé en 2015 un premier roman puissant, La Direction de l'Absent, publié chez Christian Bourgois, dont nous allons parler aujourd'hui, notamment en lien avec l'anniversaire de la libération du camp de Bergen-Belsen, qui est aussi en toile de fond de votre livre. Livre puissant qui n'a pas eu en France, je trouve, l'accueil qu'il aurait mérité et qui, fort heureusement, a été traduit en anglais, en allemand et va également être traduit en espagnol et peut-être aussi, espérons-le, en polonais. J'ai lu un passage de votre livre. Vous dites « Je suis née splendidement vivante, merveilleusement non contaminée ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire par là ?
Bah écoutez, oui, c'est-à-dire que c'est une narratrice donc qui est née dans les années 70, c'est-à-dire à un moment où finalement la guerre appartenait à l'avant, c'est-à-dire où on était radicalement, pense-t-elle, dans l'après-guerre, où la guerre est devenue un objet, et la destruction des Juifs d'Europe est devenue un objet d'histoire, un objet mémoriel, et où finalement on peut sans crainte l'aborder, être intéressé par ça, ou en tout cas le prendre comme un objet extérieur, puisque on vit dans une France, dans une ville, Paris, complètement pacifiée. Et en réalité, évidemment, la question, c'est la question de la contamination de la peur, la contamination du mal. Et ça, peut-être que c'est précisément tout le parcours du roman de montrer que cette contamination, pour être que l'après-guerre n'est pas si après que ça.
D'ailleurs, le roman s'ouvre sur la description par la narratrice de son propre suicide, ou son fantasme en tout cas de suicide, c'est comme ça que je l'ai compris, par noyade. Et la première phrase, c'est « Lorsque maman a compris que je voulais mourir, j'étais alors une femme entre deux âges, elle a pris peur. J'avais jusqu'à présent été un bon petit bijou, bien vivant, mais j'avais presque 40 ans et je voulais mourir. » Vous annoncez d'emblée que vous avez été finalement rattrapé par cette catastrophe nucléaire, en quelque sorte, qui a en revanche atteint votre mère.
Oui, 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 c'est la question vraiment de la... C'est une métaphore que j'emploie souvent, et je l'emploie souvent parce qu'elle est, me semble-t-il, un petit peu à l'origine du livre. C'est vraiment la métaphore de l'irradiation nucléaire et de la radioactivité. Et finalement, c'est quelque chose que j'essaie de décrire presque de façon phénoménologique, c'est-à-dire comment se passe cette contamination-là, pas du tout dans un esprit, n'est-ce pas, de souffrance ou de pathos, mais en tout cas d'essayer de comprendre, voilà, comment les choses se transmettent de façon presque organique, sans nécessairement qu'elles soient dites, et en dehors, encore une fois, du champ, finalement, du champ bien connu d'un événement historique borné à ces dates chronologiques.
Alors, pour que nos éditeurs comprennent, vous êtes vous-même l'enfant d'une déportée enfant, puisque votre mère a été déportée très jeune. Elle avait quel âge ?
5 ans quand elle a été déportée.
Avec votre tante et votre grand-mère à Bergen-Belsen. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est arrivé à votre mère ?
Alors, encore une fois, donc
même
là,
si ce n'est pas l'objet du livre. Exactement.
Ce n'est pas l'objet du livre, puisque l'objet du livre, qui a évidemment, je serais bien bête de le nier, une vraie source d'inspiration biographique. Et en même temps, voilà, j'assume complètement le titre de roman pour ce livre, enfin son genre. Donc, dans la vraie vie, en effet, ma mère a été déportée dans les tout derniers mois de 1944, ce qui lui a valu par grande chance relative, évidemment, d'être déportée d'abord à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen. Et elle a été déportée en compagnie de sa mère et de sa petite sœur, qui étaient donc, elles étaient toutes deux extrêmement petites. Et elles ont survécu, les trois, alors que le père de ma mère et de ma tante est mort à Bergen-Belsen en avril 1945.
Vous êtes donc... Comme la narratrice se décrit, pardon, je vais faire la confusion parfois entre narratrice et auteur. Vous êtes l'enfant du miracle et vous dites qu'il vous a fallu être simplement, enfin vous montrer à la hauteur de ce miracle-là d'être vivant. On ne vous demandait pas finalement autre chose, on ne vous demandait pas forcément d'être intelligente ou je ne sais pas, de réussir brillamment, mais il fallait, mais simplement d'être vivante en quelque sorte.
Non, je vous rassure, on m'a aussi demandé de réussir brillamment et d'être intelligente. Mais par ailleurs, je pense que...
Enfin, en tout cas, c'est dans la narratrice.
Là, c'est pas ce qu'on me demande. Enfin, je vais pas commencer à faire un exposé de psychologie intime ce soir, mais en tout cas, non. Ce qui est assez fascinant, et je pense que là, c'est une expérience extrêmement partagée, probablement, c'est, une injonction de vivance, dis-je. C'est-à-dire même plus que de vivre, c'est vraiment... Parce que dans vivance... Il y a un mouvement, c'est-à-dire c'est une fonction d'espérance. Par ailleurs, je pense que, alors là, revenons, n'est-ce pas, à la biographie, mais pour parler de ma mère, je pense que c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une vitalité assez extraordinaire. Et je pense que oui, c'est quelque chose qui a été au cœur probablement de la manière dont j'ai pu grandir et appréhender le monde. Cette sorte d'injonction à la vivance, oui.
Et pourtant, voilà, comme on l'a dit, vous voulez, enfin, la narratrice, en tout cas, veut mourir. Sans doute, on le comprend, c'est lié à une histoire d'amour, un chagrin d'amour, qui tout d'un coup rompt les digues qui contenaient, la catastrophe. Alors là, cette fois-ci, on prend la métaphore du raz-de-marée, enfin. Puisque la narratrice s'est construite des protections, elle a des sentinelles qui toutes semblent destinées à l'isoler de cette catastrophe.
Oui, si vous voulez, ça tient beaucoup. Alors, j'ai fait des films, par exemple, qui ont trait à l'histoire, enfin, d'ailleurs, des types d'histoires extrêmement différents. Donc je suis quelqu'un qui est toujours grandi et qui est vécu, même ma vie d'adulte, intellectuellement nourri par l'histoire, et pas simplement l'histoire de la catastrophe entre guillemets, mais tout type d'histoire de ce 20e siècle loup-garou dont parlait aussi Mandelstam. Et si vous voulez, et je me suis aperçue évidemment dans cette sorte d'encyclopédie du malheur, de polyphonie de la tragédie que notre 20e siècle nous a donné, je me suis aperçue en grandissant, en vieillissant, à quel point il y avait quelque chose d'assez fascinant et d'aller regarder comme ça derrière si on y était. Et en même temps, évidemment, on ne peut regarder comme ça que si on se sent soi en surplomb, en terrain protégé. Et c'est peut-être une des progressions de ce roman, s'il y en a une, que finalement, d'être rattrapé par quelque chose qui, évidemment, interdit toute position de surplomb, interdit toute protection et qui finalement vous ramène à quelque chose qui est d'une grande cruauté, d'une grande force et d'une grande douleur. Donc c'est aussi ce mouvement-là, c'est comment, quand on est dans cette évocation éternelle, sempiternelle, une évocation finalement qui peut avoir beaucoup de bénéfices
narcissiques éventuels,
notamment, mais pas uniquement de bénéfices intellectuels, etc. Et puis il y a un moment où finalement la contamination arrive par des fragilités, par des fentes qui sont là, et là on est, mais on n'est plus du tout, n'est-ce pas, dans cette position de surplomb intellectuel. On est, je pense, face au vent glacé de la souffrance, soit dit encore une fois sans pathos. Mais c'est justement, quand je disais processus, enfin description quasi phénoménologique, c'est ça que j'ai tenté de faire. C'est pas raconter l'histoire de mort, de souffrance, etc. Il y a par ailleurs des passages drôles, je l'espère, dans le livre. Mais c'est ça, c'est comment finalement... l'histoire n'est pas qu'en arrière, et comment l'après-guerre évidemment a continué à circuler et circule aussi, d'abord d'un point de vue collectif, mais aussi naturellement dans une histoire individuelle et familiale.
Qui sont ces trois sentinelles que vous évoquez dans votre livre, Ruth Zilbermann, la direction de l'absent? D'abord, que garde-t-elle, hein, puisque c'est le rôle de sentinelle? Que sont-elles pour vous? Alors, je me suis demandé si Maurice Nadeau pouvait être l'une d'elles, puisque votre livre lui est dédié. Vous aviez aussi, lui avait consacré un film. Je pense aussi à Modiano, forcément, à cause de Paris, de cette errance dans Paris et cette volonté de voir à travers les façades, en quelque sorte, de passer à travers les murailles. Ou est-ce que vous n'avez pas forcément envie de le dire, qui sont-elles?
Non, c'est écoutez, il y a des figures comme ça, en effet, il n'y a pas Maurice Nadeau, en tout cas, ça c'est sûr. Les autres, vous en reconnaîtrez certaines, elles sont à peine cryptées. Mais ce sont des gens, ou les sentinelles, pour moi, c'est des figures. En effet, dans la construction des personnages, parce que là encore, ce sont des personnages, il y a beaucoup de
hybrides,
il y a beaucoup de choses hybrides, etc. C'est pas une personne en particulier, mais en tout cas, ce sont des gens par qui j'ai toujours été bizarrement que des gens comme ça, j'en ai connu des tonnes, j'en ai connu très jeune. Je sais pas si c'est si bizarre que ça. Je devais avoir peut-être être amenée à rencontrer ce genre de personnes. Ce sont des gens en fait qui sont aussi des passeurs de la ville, qui sont des sentinelles, des passeurs de la ville, qui sont des gens qui errent comme ça dans la ville, qui vous indiquent des passages secrets, qui sont des passages secrets tout à fait topographiques, mais aussi évidemment des passages secrets symboliques qui vous aident à arpenter ce que j'appelle les couloirs du temps, c'est-à-dire ce moment où les temps ne sont pas, et ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup aussi, les temps ne sont pas hermétiquement clos les uns avec les autres, et non pas qu'on puisse faire un aller-retour dans le passé, mais en tout cas qu'on peut circuler dans ces couloirs, et ces personnes, mais qu'on a rencontrées, j'imagine, à Saint-Pétersbourg en 1890, à Berlin en 1950 ou à Paris dans les années 1980, elles existent, je le sais, dans chaque ville. Moi, il se trouve que ma ville, c'est Paris, et que donc ces sentinelles là qui m'ont appris notamment à la regarder, à imaginer, et voilà, à recréer comme ça des couloirs du temps dans lesquels on flâne, comme dirait Benjamin.
Alors, il y a toute une partie aussi du livre qui est consacrée, on pourrait dire, à un portrait de dissidents d'Europe de l'Est. Ça a été un sujet de vos films, hein.
Ce qui se passe en Pologne, en effet, c'est la rencontre avec une terre. C'est-à-dire, bon, mais ça, c'est quelque chose qui est devenu presque une sorte d'archétype, hein, de la littérature mémorielle. Mais le retour en Pologne, le retour fantasmé, puisque, de fait, moi, par exemple, j'ai été assez tardivement en Pologne. Et cette impossibilité, cette difficulté à voir, à sentir quoi que ce soit dans des rues légendairement vides, ou légendairement transformé, contrairement à Paris, justement. Et c'est aussi ça, évidemment, le contraste entre un Paris préservé, immuable, et un Varsovie comme ça qui a été complètement refondu. Mais oui, évidemment, le contact avec la Pologne, et puis ensuite avec quelqu'un, un homme d'origine polonaise, qui fantasmatiquement incarne justement toutes ces, ce que j'appelle les petites figures du passé insubmersibles, va être un élément très catalyseur pour la narratrice, justement pour accéder à ce que je décrivais plus haut, c'est-à-dire à cette sorte de sensibilité, de sensation, et aussi d'extrême dénuement finalement face au vent de l'histoire.
La narratrice se décrit à un moment donné, je trouve la formule très, très éloquente, très juste, comme un fantôme venant du futur, qui, alors là c'est la position de surplomb, hein, dont vous parliez, qui pendant la nuit rêve et se survole en rêve le ghetto de Varsovie, dont elle connaît chaque nom par cœur, il ne faut pas s'approcher trop près, parce qu'à ce moment-là, on voit les détails. Est-ce que c'est une expérience, on va dire, subjective? Est-ce que c'est que vous avez fait vous-même d'être dans cette position, cette obsession, la nuit, ce...
Oui, Oui.
Est-ce que vous sentiez comme un fantôme également, comme votre narratrice, comme un fantôme revenu du futur, invulnérable, mais en même temps mais ça, curieux de s'approcher au plus près.
Pas curieux de s'approcher au plus près, mais c'est cette position que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire fear-proof, bullet-proof, c'est-à-dire c'est même pas simplement en allant dans les anciennes rues du ghetto de Varsovie, mais c'est aussi tranquillement installé chez soi, en train de compulser. Toute la littérature existante sur les ghettos de Varsovie, oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être dans cette sorte de se sentir comme ça, d'être pénétré du malheur et en même temps d'en être tellement préservé. Et c'est la fausseté de cette position aussi. Enfin, non pas que je la critique moralement, mais en tout cas, je voulais la mettre au jour, la fausseté de cette position que j'essaie de peut-être décrire.
Tout à fait. Vous appartenez, on pourrait dire, au croisement de deux générations, à la deuxième, puisque votre mère est déportée, mais en même temps, vous avez l'âge d'appartenir à la troisième. Et ce qui fait la singularité vraiment de ce livre et sa puissance, comme je disais, c'est pas une enquête mémorielle. Hein, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est devenu un topos, on va dire le petit-fils, la petite-fille qui va revenir sur les traces de ses ancêtres en allant effectivement le voyage en Pologne. Vous, il y a un voyage en Allemagne qui est très très drôle d'ailleurs, parce qu'on parlait, vous retrouvez dans un hôtel. Au milieu de... Voilà, enfin bon, il faut que je laisse les lecteurs le découvrir, mais il y a des passages très drôles. C'est une question peut-être difficile, mais qu'est-ce que ça fait d'être un peu entre ces deux générations, enfin d'être entre la deuxième et la troisième? Est-ce que vous vous sentiez un peu atypique, on va dire, par rapport à...
Oui, probablement, mais je pense que c'est intéressant justement d'avoir, de pas être, d'être dans ce...
décalage,
dans un décalage permanent. Oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai senti de façon assez forte, en fait.
Parce que c'est assez rare, en fait, d'avoir cette expérience qui est la vôtre, d'être enfant de déporté, enfant. Hein.
Oui, et puis, oui, absolument. Donc, oui, non, c'est vrai, d'être comme ça, dans un entre-deux générationnel, je pense que c'était assez... c'est quelque chose qui a été très marquant pour moi, en fait, parce qu'il y avait une proximité, finalement, avec ces événements-là, qui, en même temps, étaient niés par... par le lieu où je grandissais. Et puis, vous savez, je pense que, alors là, j'ai pas fait, oui, je me méfie vraiment beaucoup de toutes ces psychologisations aussi de deuxième, troisième génération, etc. Mais je suis très curieuse parce que je sais qu'il y en a quelques-uns en France et puis j'imagine qu'il y en a d'autres en Israël. Mais c'est très particulier d'avoir un parent enfant qui a été déporté. Parce que je pense que pour lui-même, et c'est pour ça aussi que je parle de mémoire organique. Je pense que pour lui-même, évidemment, la perception d'un enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, mais qui n'est pas encore construit. Et donc, je pense que la transmission d'enfant à enfant, en quelque sorte, est quelque chose d'assez puissant. Parce que c'est quelque chose qui est presque en deçà ou avant le langage, qui est encore en termes d'image. Et c'est pour ça aussi que, mais c'est en vous parlant que j'ai réfléchi, que je termine le livre dans une sorte de moment un petit peu de vision ou de chamanisme. Enfin, je ne veux pas faire fuir les auditeurs. Hein,
non, mais c'est tout à fait le cas. Le dernier chapitre s'appelle Ventriloque.
Et c'est ça. Et ventriloquie aussi pour assumer ce statut. C'est-à-dire que je parle vraiment d'ici. Je ne prétends pas y être. Je dis qu'est-ce qu'on peut savoir de là-bas, en l'occurrence de cette expérience concentrationnaire.
Et là, c'est votre mère, en quelque sorte, qui parle à travers vous.
Oui, peut-être.
Enfin,
voilà.
C'est comme ça que nous, le lecteur, on peut le ressentir.
Oui.
D'ailleurs,
oui,
à ce moment-là, le style qui est très maîtrisé et bon, qui est sublime, hein, je trouve, de votre livre, tout d'un coup se disloque. On le voit très bien, d'ailleurs. Hein, stylistiquement, ça change. C'est des phrases plus courtes. C'est... Bon, alors... on sent une forme de suffocation ou à ce moment-là de souffrance, en tout cas d'urgence aussi vitale.
Oui, mais parce que justement, enfin, je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ma mère était une enfant, c'est-à-dire qu'elle était dans la perception pure, dans la peur pure. Et je pense que c'est quelque chose de très spécifique. Par exemple, Aaron Appelfeld, j'imagine, a passé son temps, il était plus grand d'ailleurs, à tourner autour de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un enfant soumis au mal radical. Ça, c'est une question. On comprend. Enfin, quand je la formule comme ça, on comprend que quand même ça, je me la sois posée.
Vous écrivez par exemple les nuages, doigts, sol, caillou, terre, noir, doigt, dos, sol, terre, dos, masse intérieure, poids, contre, terre, mal, marche, nuance, oui, nuage, pardon, c'est une forme de transe, quoi, exactement, hein, comme vous avez parlé de référence chamanique. Ruth Zilberman, vous êtes donc, on vous connaît davantage comme réalisatrice. Est-ce La direction de l'absent, est-ce un livre que vous portez depuis très longtemps? Est-ce que.
Oui, oui. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que c'est mon premier livre publié, mais en fait, j'ai eu un tas de manuscrits rejetés avant, ce qui est d'ailleurs une adresse à nos auditeurs graphomanes de ne pas désespérer. Et même si les manuscrits que j'avais écrits auparavant étaient pas tous, traitaient pas tous de ça, évidemment, mais en tout cas, oui, c'est une question, la question de la France. De qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une ville, qu'est-ce que ça veut dire appartenir à un pays quand finalement toute votre histoire prouve que c'est une identification hasardeuse, et donc ce sort de mouvement entre hasardeux et nécessité, et pour quelqu'un qui aime la littérature comme moi, évidemment adopter une langue, adopter un pays, c'est quelque chose de très particulier. Et donc bref, toutes ces questions-là, oui, ça faisait longtemps que je les travaillais, bien avant de faire des films d'ailleurs. Et ben finalement, ça a donné cette direction de l'absent.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets littéraires? Est-ce que vous envisagez d'écrire sur autre chose?
Ah ben oui, absolument. Si Dieu m'en laisse le temps et l'argent.
D'accord. Votre dernière question, votre livre est nourri d'innombrables... Enfin, on sent qu'il est nourri de lectures. Comme la narratrice dit à un moment que dans sa bibliothèque gisait, entre les étagères de bois blanc, je crois, si de mémoire, gisait tout le siècle cruel entassé. Est-ce aussi le cas? Est-ce que vous avez accumulé Vous avez tout lu, quoi.
Non, j'ai pas tout lu. Non, j'ai lu beaucoup, mais mes étagères sont en bois marron.
D'accord. C'est là où, faut pas se laisser prendre.
Faut pas se laisser prendre. Non,
par l'identification.
Absolument.
D'accord.
Mais oui, bien sûr. Mais enfin, pour la première chose, vous savez, j'ai fait ce film sur Maurice Nadeau, et il y a une très belle lettre que lui avait envoyée Georges Perec, dans laquelle justement Georges Perec très timidement lui demandait s'il pourrait lui passer le manuscrit des choses, et lui demandait des conseils. Et Nadeau lui répond, et je pense qu'il a vraiment raison, relisez Baudelaire, et c'est comme ça qu'on apprend à écrire. Bon, écoutez, moi je crois pas tellement au creative writing, je pense qu'il faut lire, quoi.
Yeah,
et c'est les meilleures sources où apprendre.
Est-ce qu'il y a un ou deux auteurs qui sont vos références ou vos...
Non, il y en aurait trop, on n'aurait pas le temps de les énumérer tous.
Merci Ruth Zilberman.
Merci.
Je rappelle le titre de votre livre, La direction de l'absent, un livre puissant, sublime, que j'invite les auditeurs à se procurer chez Christian Bourgois. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver: www.radio-rcj.info et www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.